Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Jason Ballon Rond, un autre épisode où on couvre l'actualité dans le monde de la planète soccer. Et ce n'est pas le moindre épisode parce que c'est le 20e de l'histoire de Jason Ballon Rond. Et pour ça, on fait ça en grand avec 5 personnes. Donc Olivier Prince, Groslois Animation, mais je suis également accompagné de Thomas Lafont, Doual Ibrahim, Hans et Baptiste Rastello. Comment ça va les gars?
Ça va très bien. Super content de faire cet épisode-là. Écoute, après l'épisode où on avait des clips, ça fait du bien d'en avoir un nouveau. Là. Faire du nouveau exact. Contenu.
Baptiste, Hans, vous allez bien?
Ouais, super.
Très bien, ouais.
Content de cette victoire du Canada qui se qualifie pour la Copa América?
Ouais, ça va être intéressant de pouvoir voir le Canada participer à un tournoi international durant cet été-là. Surtout qu'on va être assez bien garni durant cet été-là pour des compétitions. Donc, le fait que Canada va être là, ça va être intéressant.
Ouais, et puis on parle pas de la Gold Cup, là, on parle d'une vraie compétition internationale. Voilà, c'est Copa America, ça va être... on peut se lancer directement là-dedans, d'ailleurs, puisque ce sera notre premier sujet. Mais en fait, avant ça, le match qui avait lieu, je crois, samedi dernier entre le Canada et Trinité et Tobago, pour la qualification en Copa América, victoire de 2-0 du Canada. Une victoire qui était absolument essentielle là, parce que ça aurait été une catastrophe de perdre contre Trinité et Tobago, qui s'est bien défendu cependant. Baptiste a écrit un article d'ailleurs là-dessus. Veux-tu commenter sur ce match, Baptiste, commencer le bal?
Ben écoute, le Canada s'en est bien sorti contre Trinité et Tobago. C'est sûr qu'il y a beaucoup de critiques sur 2-0. Ça a été difficile, on va dire, contre une équipe que ça ne devrait pas être aussi difficile normalement. Mais je pense qu'un match comme ça, avec un enjeu aussi fort, l'important, c'est le résultat. Puis le Canada est allé la chercher au bout du temps réglementaire. Donc, c'est ça qu'on retient. C'est ça l'important là-dedans. Ils ont réussi à pas encaisser de but, ils ont réussi à aller en marquer 2. Donc, il faut voir le positif, malgré que ça n'a pas été un match super simple. Puis on va voir ce que ça va donner cet été contre des formations un peu plus aguerries à la Copa América.
Ouais, on n'a pas vu. Il y avait plusieurs joueurs du CF Montréal qui étaient sélectionnés pour ce match. On n'a pas vu Serrois, c'était Maxime Crépeau dans les buts, mais on a vu Joel Waterman qui a été titulaire là, en défense centrale. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance? On peut y aller peut-être avec Hans.
Ouais, ben, je trouve qu'il confirme encore plus son poste de partant, puis il continue sa belle saison de l'an dernier. Plus les matchs avancent, plus on dirait que c'est un gars qui est plus calme avec le ballon. Avant, on le voyait un peu plus stressé après son arrivée en CPL puis à MLS, mais là, il commence à prendre plus de confiance. Je trouve que dans la chambre centrale, que ce soit au Canada ou avec le CF Montréal, je pense que c'est un gars que tu peux faire confiance quand tu es un milieu de terrain ou un attaquant, ou même que tu es un gardien. Il démontre beaucoup d'aisance avec le ballon, etc. Puis même Laurent Courtin l'avait souligné que c'est un gars qui n'a même pas fini de progresser. Donc, je crois que c'est bon signe dans son cas. Puis je pense qu'il y aura du boulot à faire là, jusqu'à la Coupe América, mais pour l'instant, il s'en sort vraiment bien. Là. Puis pareil pour les autres gars du CF Montréal comme Chouanière, puis les anciens comme Koné aussi. Là.
Oui, on a vu Koné, on a vu Chouanière rentrer en fin de match également. On a vu également Jacob Schaffelberg rentrer en fin de match. Baptiste en a parlé quand même en privé et puis dans ton article. Quelques mots sur cette sensation. Ben, j'ai une sensation peut-être qui peut faire la différence avec le Canada. On l'a vu là, quelques fois marquer des débuts.
Ben, rapidement, je pense que Toronto peut vraiment s'en mordre les doigts d'avoir perdu un jeune joueur aussi talentueux. Je pense que dans la génération actuelle, c'est un des joueurs les plus talentueux avec le Canada. Et c'est un des joueurs qui joue le mieux, qui correspond le mieux dans l'équipe. C'est pas un joueur avec des individualités comme on va le voir avec Tajin Buchanan, par exemple. C'est vraiment un gars qui a compris le système, qui applique les consignes de son entraîneur, puis qui joue simple, puis ça paye. Il a fait une entrée de match remarquable. Il a amené plus que certains joueurs alors qu'il a joué à peine 15-20 minutes. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite pour Schaffelberg, autant MLS qu'avec l'équipe canadienne.
Puis, Jonathan David connaît une deuxième moitié de saison exceptionnelle avec Lille en Ligue 1. Est-ce que tu penses qu'il peut transposer ça quand la Copa América arrivera ou dans les prochains matchs du Canada en match international?
Écoute, c'est une excellente question. Bon, je veux pas vous mentir. Pour moi, Jonathan David a été le joueur le plus décevant du Canada lors de la Coupe du Monde. Pour moi,
pour ça que je te demande ça.
C'est pas pour rien que tu me poses la question, mais écoute, ça va dépendre de. Honnêtement, ça va vraiment dépendre de sa fin de saison avec Lille. S'il est capable de continuer cette séquence-là, puis qu'il est capable de ne pas perdre son momentum, moi, je pense qu'il est capable de s'en sortir en sortant un gros match. Peut-être pas trois gros matchs dans la phase de poule, mais s'il est capable de sortir juste une grosse game, moi, je pense qu'il peut s'en sortir. Mais écoute, c'est quand même une excellente question parce que c'est quand même un gars qui. Par moment, il peut être exceptionnel et par d'autres moments, il peut être absent. Mais c'est quoi? C'est souvent le cas de plusieurs attaquants dans les grosses compétitions. On peut le voir dans plusieurs grosses nations. Je peux te donner un excellent exemple. Lautaro Martinez, qui a une saison absolument exceptionnelle du côté de l'Inter Milan. Lui aussi, des fois, il n'est pas très exceptionnel avec l'Argentine. On l'a vu à la Coupe du Monde. Oui, son équipe a gagné la Coupe du Monde, mais c'était pas le grand attaquant qu'on voit à l'Inter Milan. Puis, il y a plusieurs gâchis. On peut voir aussi du côté de la Belgique avec Lukaku aussi. À un moment donné, c'est juste une question d'adaptation. Puis, écoute, j'attends David de quoi? 23 ans, 24 ans en ce moment? Il reste encore du temps. Puis, moi, j'ai plus l'impression que on va le plus se voir à la Coupe du Monde dans 2 ans. Genre, l'apogée de Jonathan David. Moi, c'est pas mal plus là. Mais écoute, s'il est capable d'avoir un excellent tournoi, honnêtement, je serais très, très, très content. Mais je sais pas, pour être franc.
Est-ce que vous penchez dans le même sens que Doux concernant David?
Ben,
Vas-y.
écoute, moi,
Ouais, vas-y, Tom.
je suis en accord. Je pense que David a démontré qu'il est capable de bien performer sur des gros stages, notamment en Europe, mais par contre, sur pas international, à la Coupe du Monde, c'était loin d'être fameux. Donc, écoute, la Copa América, c'est un peu, je sais pas, ça passe, ça casse pour lui, mais c'est vraiment comme une opportunité de prouver que il fait partie de l'étincelle, je te dirais.
Ouais, en termes d'avant-centre, là, en effet, là, c'est bien de performer à Lille, mais tout à fait, au Canada, il se doit de démontrer aussi. Il est en marque des buts, là, il se dit, là, mais c'est vrai que dans les gros moments, comme vous l'avez dit, on reste encore sur notre faim, puis espérons qu'on va le voir être l'attaquant qu'il est pour de vrai à la Copa América. Et parlant de la Copa América, on va aller parler des différents groupes. Le groupe A, donc, c'est le groupe du Canada qui partagera ce groupe avec l'Argentine. Oui, l'Argentine, champion du monde, Lionel Messi, Angel Di Maria, Julian Alvarez, et etc. Donc, le Pérou et le Chili également. Le Chili, quand même, qui s'est très bien débrouillé contre la France dans les derniers jours, là, en match amical, on y reviendra. Mais voilà, quand même un groupe qui est prenable. On s'en parlait. Tu sais, on peut terminer derrière l'Argentine. C'est quelque chose de possible pour le Canada. Il va falloir être meilleur que le Chili et le Pérou, cependant. On va y aller avec, tiens, Baptiste, tes impressions sur ce groupe et sur ton analyse, donc.
Ben, c'est sûr que c'est un bon groupe. Je sais que Tom y avait mentionné dans la conversation qu'il voyait le Canada avoir des bonnes chances de finir deuxième derrière l'Argentine. Je suis d'accord avec lui qu'il y a des chances. Après, le Pérou, le Chili, c'est des formations quand même très fortes, qui ont beaucoup d'expérience sur ces scènes internationales-là, sur ces compétitions-là. Le Canada, on le sait, c'est, à part la Coupe du Monde l'année dernière, ben, il y a 2 ans, c'est que des Gold Cup. Des Gold Cup, c'est pas le moyen que tu acquiers le plus d'expérience, même si ce l'est. Puis maintenant, on est dans une nouvelle génération, beaucoup de nouveaux, des jeunes joueurs. Il n'y avait aucun joueur de 30 ans là, dans le match contre Trinité et Tobago parmi tous les joueurs canadiens. Donc, ça va dépendre d'eux. Ça va leur donner de l'expérience, ça c'est sûr, peu importe le résultat. Après, le Canada, oui, ont leur chance de passer au prochain tour, mais ce sera certainement pas facile. Je pense qu'il faut juste essayer de viser au moins une victoire, puis ça permettrait de prendre l'expérience, surtout pour préparer la Coupe du Monde 2026.
Ouais,
Ben, je suis
puis,
très d'accord, mais
ouais, vas-y.
c'est sûr que ce sera pas facile, mais tu regardes le Chili, on est loin des grosses années de 2014-2016 avec Arturo Vidal et Alex Sanchez et Claudio Bravo. Le Pérou, ça n'a jamais été une puissance. Donc, je pense que c'est des équipes qui sont au niveau du Canada. Ce sera pas des. je pense pas que le Canada va se faire déclasser comme à la Coupe du Monde non plus.
Non, mais je rajouterais juste, le Canada, on a, admettons, la valeur de l'équipe, elle est évaluée à 200 millions, à peu près, un peu moins de 200 millions. Mais sur ces 200 millions, il y a à peu près 100 millions, un peu plus de 100 millions qui appartiennent à deux joueurs. Si on regarde les autres joueurs, là, le Pérou ou le Chili n'ont rien à s'envier aux autres joueurs canadiens. Exactement. Nous, on les connaît parce que c'est des Canadiens. Il y a des Montréalais, il y a des Québécois. C'est pour ça qu'on les connaît mieux. Mais tu regardes sur papier, à part Jonathan David et Alphonso Davies, qui sont peut-être une classe au-dessus parmi tous ceux-là, le reste, c'est pas des niveaux à part.
Mais Eustáquio est très important dans l'effectif de Porto, qui est quand même pas une mince organisation, mais je comprends ce que tu veux dire, en effet. Mais je pense que surtout, c'est l'expérience qui joue en faveur du Chili ou du Pérou, parce que ils ont, comme tu disais, ils ont de l'expérience dans des grandes compétitions internationales. La Gold Cup, c'est loin d'être ça. Là. La dernière Gold Cup, là, Davies et tout n'étaient pas là parce qu'ils ne jugeaient pas ça assez important. Donc, c'est vraiment pas comparable, Gold Cup et Copa America, très, très d'accord avec ça. D'où tu me sembles vouloir rajouter quelque chose sur cet enjeu-là?
Non, mais moi, je suis 100% d'accord avec Baptiste. Là. Écoute, Tom, il dit que le Chili n'est pas une grande nation. Je suis désolé, mais s'il y a une compétition que le Chili domine, c'est bien la Copa America. Puis en même temps aussi, la raison pourquoi je suis d'accord avec Baptiste, c'est qu'il y a un an, là, il y a un peu plus d'un an, là, on a parlé dans les débuts de Jason Balleron de ouais, le Canada a des chances de se qualifier à la phase d'élimination directe à la Coupe du Monde. Puis qu'est-ce qui s'est passé? 3 matchs, 3 défaites, terminé dernier. Donc, faut juste se calmer puis pas trop s'emballer avec l'idée que le Canada peut se qualifier pour la phase d'élimination directe. Écoute, on va voir ce qui va se passer contre le Chili, on va voir ce qui va se passer contre le Pérou. Puis Baptiste a parfaitement sorti l'exemple de la valeur de transfert des joueurs. C'est pas mal égal si tu retires juste Davies et Jonathan David. Là. Honnêtement, c'est pour ça que moi je suis un peu sceptique avec le fait de dire que le Canada va terminer deuxième, parce qu'on a dit la même affaire à la Coupe du Monde 2022, puis on s'est complètement planté. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais
dire. Ouais, c'est juste que là c'est plus réaliste. Là. Coupe du Monde 2022, c'était Maroc et Croatie, entre autres, et Belgique. Là.
Ouais, mais on pensait
que
là,
je pense que c'est plus réaliste de penser qu'on peut finir deuxième avec Chili et Pérou.
Ouais, mais attends, on pensait.
À la Coupe du Monde 2022.
Attends, on pensait pas. En
2022, on disait qu'on avait des chances, mais personnellement, j'étais pas tant optimiste que ça.
Non, là, mais je sais. Plus. Je sais, mais on en parlait quand même. Là. Il y a beaucoup de gens qui voyaient le Canada devant le Maroc parce qu'on connaissait pas trop les joueurs du Maroc. Le Maroc s'est rendu en demi-finale. La Croatie, on disait que c'était une équipe vieillissante, que le Canada avait peut-être ses chances. Même là, c'était terrible comme match. Donc, écoute.
Je suis d'accord là-dessus, mais ça reste que. Objectivement, tu regardes les deux opportunités qu'on a, clairement, le Canada a plus de chances de se qualifier deuxième à la Copa qu'à la Coupe du Monde. Mais voilà, parlons. Donc, Anne, toi, quelles sont tes attentes par rapport à ce groupe? Est-ce que tu vois également la difficulté du Canada à se rendre deuxième? En fait, prédiction, là, qui va se qualifier dans le groupe A?
Ben écoute, l'Argentine, je vois se qualifier, là, ça peut parler au Messi puis sa bande, etc. Après, le Canada, je pourrais pas venir ouvertement puis dire qu'ils vont être deuxième. Je serais pas confiant à dire ça. C'est possible, faut pas éliminer leur chance non plus. Mais ça va être compliqué parce que le Chili, comme le Pérou et l'Argentine, on sait que c'est une compétition qui leur tient à cœur. Puis c'est un style de jeu que le Canada est pas nécessairement habitué de voir, ou peut-être des fois quand ils jouent contre le Mexique, mais c'est des équipes qui vont venir vraiment agressives, fortes dans les duels. Donc c'est un style de jeu que peut-être le Canada va s'attendre à jouer, mais c'est une autre chose une fois que tu es sur le terrain puis d'avoir l'expérience de ça. Donc ça va peut-être les sortir de leur zone de confort. Peut-être qu'il y en a certains qui vont sortir de leur match. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir, là, surtout face à des coups vicieux là, que certains peuvent faire, là, comme le Chili ou le Pérou. On sait que c'est des équipes très agressives. De ce que je vois, je pense pas voir le Canada se qualifier. Là, ça va être compliqué, là, surtout contre le Chili qui est sur une bonne lancée, qui a fait un très, très bon match contre la France quand même. Je leur retire pas leur chance de se qualifier, mais je pense que l'Argentine devrait passer, le Chili aussi, puis le Pérou puis le Canada vont finir dernier de ce groupe.
D'accord, intéressant. Tom, groupe B, Mexique, Équateur, Venezuela, Jamaïque. Est-ce que pour toi, le Mexique est favori dans ce groupe? Un groupe peut-être un peu plus tranquille que d'autres?
Oui, ben écoute, je pense que le Mexique, c'est pas mal leur groupe à perdre. C'est les favoris. Par contre, la deuxième place est vraiment en jeu. On sait que la Jamaïque, ça ne va pas très bien de manière interne. C'est beaucoup de discorde, notamment avec Leon Bailey et d'autres cadres dans cette équipe-là. L'Équateur et le Venezuela, je vais avouer que c'est des équipes que je connais moins, mais honnêtement, je verrais bien l'équipe de la CONCACAF s'emparer de ce groupe-là. En fait sortir de ce groupe-là.
Puis oui, mais je suis d'accord avec toi, je vois pas comment le Mexique pourrait ne pas se qualifier dans un groupe qui est à leur portée. Puis dans le groupe C, Baptiste, un très beau groupe, je trouve, quand même, avec États-Unis, Uruguay, qui va être intéressant, Panama et Bolivie également. Est-ce que tu vas avec la logique d'États-Unis et d'Uruguay, ou est-ce que quelqu'un peut créer une surprise dans ce groupe?
Je pense quand même que les États-Unis, Paraguay, États-Unis, Uruguay, c'est un step au-dessus des autres équipes. Même si le Panama m'a vraiment, vraiment surpris en Nations League là, récemment contre le Mexique. Ils ont perdu 3-0, mais le score ne reflète pas du tout le match qu'ils ont disputé. Ils ont vraiment dominé le Mexique en termes de ballon. Ça a été plus dur parce que le Mexique est un peu plus reculé de se créer des occasions, mais le Panama m'a beaucoup surpris. La Bolivie, je pense qu'ils vont terminer dernier. Les États-Unis, c'est une montée en puissance constante, donc je pense qu'ils vont terminer au sommet du groupe.
Ah ouais.
Normalement, l'Uruguay devrait se qualifier aussi, mais faut faire attention au Panama, à mon avis.
Ah ouais. États-Unis au sommet du groupe, moi aussi, ça me surprend quand même. J'aurais mis l'Uruguay, mais doute, vas-y. C'était une réplique là.
Non, mais je suis d'accord avec Baptiste par rapport au Panama et à la Bolivie. Mais écoute, on parle quand même des États-Unis. Les États-Unis, le football, je sais qu'il y a une montée en puissance, mais on parle quand même des États-Unis et le football. Eux qui appellent ça le soccer. C'est pour vous dire à quel point que je suis. que j'ai aucune confiance aux États-Unis. Je pense que l'Uruguay va terminer en avant parce que, je ne vais pas vous mentir, j'étais vraiment déçu par le niveau de jeu de l'Uruguay à la Coupe du Monde en 2022. Puis là, mm-hmm. Il y a plusieurs joueurs, surtout des gros cadres, que moi j'ai l'impression que les États-Unis n'ont pas et que l'Uruguay ont. Là. On parle des Araujo à la défense, on parle de Fede Valverde au milieu, avec Ugarte aussi. Darwin Núñez en avant. Je m'excuse, mais les États-Unis ont qui de ce niveau-là? Ils n'ont aucun joueur qui est proche de ce niveau-là, tu sais. Donc,
Sergio Dest.
ouais, même niveau.
Sinon, il y a le LeBron James américain aussi, Christian Pulisic. Fait que...
L'affaire, c'est que...
LeBron James,
je comprends ce que tu dis, Dou, mais c'est sûr que l'Uruguay a des noms plus flashy, comme on dit, mais des noms, c'est pas ce qui fait une équipe. On voit que le Canada, Davis, David, c'est des noms plus forts que... C'est probablement c'est les deux plus gros noms, on va dire, de la CONCACAF. Littéralement, Davis, c'est le plus gros nom, le meilleur joueur sur papier. Mais ça fait pas une équipe. Une équipe, c'est constitué d'un coach, d'un effectif complet. Puis les États-Unis, pour moi, ont un effectif qui joue tellement mieux ensemble. Je sais pas si vous avez vu le match contre le Mexique, là. C'est une démonstration, là. C'est une démonstration qu'ils ont fait. C'était réellement un super match, alors que il y a quelques années, c'était le Mexique qui était favori. Mais après, on ressortira les clips au moment de la compétition, puis on verra qui finira premier entre les deux équipes.
Ah, c'est vraiment pas de problème.
Du côté des États-Unis, je pense qu'ils réussissent à gagner malgré le fait que Berhalter soit l'entraîneur de cette équipe-là. Parce que, tu sais, oui, il y a eu beaucoup de controverses avec Greg Berhalter. Puis. Je pense que les États-Unis, c'est probablement le meilleur groupe qu'ils ont eu de leur histoire présentement. Puis énormément de talent dans cette équipe-là, mais ils n'ont pas un bon entraîneur, un bon tacticien. En fait, c'est un gars qui ressemble beaucoup à celui d'Angleterre. Là.
Je savais que tu avais sorti Southgate. C'est bon.
Ben écoute, je veux dire, tu penses à une équipe qui a beaucoup de talent, mais un mauvais entraîneur, tu penses systématiquement à l'Angleterre. Ça, je pense que les États-Unis, avec un meilleur entraîneur, seront capables de se rendre loin dans des compétitions comme ça. Par contre, je ne suis pas sûr qu'ils seraient capables de terminer premier avec, dans ce groupe-là devant l'Uruguay avec l'équipe qu'ils ont présentée.
Mais pour enchaîner sur ce que Baptiste disait, je trouve quand même que, ben, je ne sais pas si les États-Unis vont terminer premier, là, je pense que ça va être très serré contre l'Uruguay. Mais c'est vrai que quand tu regardes les États-Unis présentement, le groupe américain présentement, et il y a 5 ans, tu vois vraiment une transition nette vers beaucoup de joueurs de MLS il y a peut-être 5 ans. À maintenant, la plupart des gars qui sont sur le 11 partant des États-Unis jouent en Europe. Tu sais, des Pulisic, des Gio Reyna, McKenny, Mihailovic, etc., Pepi. Les exemples sont gros, c'est souvent aussi dans la jeunesse. Donc, tu vois qu'ils ont vraiment fait un bon travail de dans leur recrutement et dans leur développement d'aller de pouvoir mettre sur le terrain des joueurs qui jouent dans des grandes ligues d'Europe, alors qu'il y a plusieurs années, c'était surtout des joueurs de MLS dans l'11 partant, même s'il y a encore des joueurs de MLS dans l'11 partant. Mais bref, bon travail du côté des États-Unis. Là. Ça va être très intéressant de voir le Uruguay-États-Unis, cette compétition-là. Puis Hans, doux dernier groupe, Brésil, Colombie, Paraguay et Costa Rica. Le Paraguay de Miguel Almiron, quand même. Mm-hmm. Brésil, Colombie, on respecte la logique, mon doux?
Je pense que oui. Par contre, le Brésil, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer avec eux parce que, bon, on l'a vu lors de la semaine de matchs internationaux que le Brésil, par moment, peut très bien se débrouiller, notamment avec André qui a marqué 2 buts à ses 2 premiers matchs, ce qui est assez exceptionnel pour un gars de 17 ans. Puis, non, mais c'est surtout le fait que, je ne sais pas, ils ont vraiment une phase hyper difficile, probablement peut-être la pire phase de l'histoire du Brésil après la Coupe du Monde. Là. Perdu contre plusieurs équipes, là, notamment, je peux me rappeler, là, que ce soit perdre contre le Sénégal, perdre contre le Maroc, perdre contre beaucoup, beaucoup d'équipes. Il y a vraiment une transition qui est extrêmement difficile entre le départ de leur entraîneur, puis fait que, ben, c'est surtout le fait qu'ils n'avaient pas de sélectionneur à ce moment-là. Puis aussi avec, à l'époque, les rumeurs qui disaient que peut-être qu'Ancelotti allait reprendre les rênes de l'équipe, de la sélection brésilienne. Puis malheureusement, c'est pas arrivé, mais non, pour vrai, je sais pas trop pour le Brésil. Moi, je pense qu'ils vont quand même terminer premier parce que c'est le Brésil, là. Mais j'ai l'impression que peut-être que leur tournoi va être un petit peu décevant vu la forme de la dernière année et demie du Brésil.
Ouais, ben.
Est-ce que Neymar va être de retour?
Moi, j'espère que non. Personnellement, j'espère que non. Je suis désolé, pour moi, Neymar, là, c'est une trop grosse distraction. Et le gars, ça fait 7 mois qu'il joue pas. C'est normal, il y a une blessure. Puis tu vois que le gars, il prend pas trop le football au sérieux. Fait qu'est-ce qui va vraiment amener Neymar dans une influence avec son influence dans cette équipe brésilienne qui est en transition avec des Vinicius, avec des Rodrigo, avec Hendrick, on va d'arriver, avec un Paqueta qui se débrouille très bien aussi. Je sais pas. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée, mais en même temps, c'est Neymar. Hein. Fait que peut-être qu'il peut se permettre d'arriver. Mais en même temps, Neymar, comparé à des Messi ou des Ronaldo, il a rien gagné avec le Brésil. Donc, il devrait pas se permettre de. Tu ne vas pas avoir un laissé droit de dire « Ah, oh, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Brésil sans avoir rien gagné », surtout qu'on parle du Brésil.
Ouais, je pense que si Neymar est en santé au moment de la Copa América, tu n'as pas le choix de le sélectionner en tant que sélectionneur. Cependant, est-ce qu'il mérite d'être sur 11 partant? Pas du tout, je suis d'accord avec toi. Tu as déjà un Vinicius et plusieurs autres dans le même secteur de jeu que lui qui méritent plus d'être là que lui. Mais après ça, je pense que tu peux quand même pas ne pas sélectionner un Neymar s'il est disponible. Mais à suivre, si on retournait au Canada avec Hans, j'avais une question concernant Mauro Biello. C'est le sélectionneur présentement du Canada. Il y a eu on en a parlé comme quoi il pourrait être remplacé avant la Copa América, mais là, on est à quelques mois de celle-ci. C'est l'homme de la situation pour toi pour cette Copa, Hans?
L'homme de la situation, c'est sûr qu'il y aurait des gens qui pourraient combler son poste qui ferait mieux ou ce serait plus idéal, mais pour moi, c'est lui qui devrait diriger le Canada pendant la Coupe América parce que je pense pas que le groupe a besoin d'être déstabilisé à l'aube d'une compétition aussi importante. Je pense qu'il y a déjà assez de bruits extérieurs qui font qu'il y a des problèmes internes et quoi que ce soit. Je pense pas que limoger le coach avant un tournoi comme celui-ci, ce serait la meilleure des décisions. Donc, je pense que oui. En plus, il ne fait pas une job tant mauvaise. Je pense qu'il fait un bon travail avec les moyens qu'il a. Le Canada offre quand même des bonnes performances. Puis dans le jeu, c'est sûr que ce n'est pas fameux encore. Il y a encore des systèmes à travailler, mais ils ont progressé avec lui. Puis je pense qu'ils sont encore en train de progresser. Il y a moyen de faire quelque chose de beau. Et je pense que c'est lui qui devrait rester à la barre de l'équipe canadienne jusqu'à la fin de la Copa América, puis jusqu'à temps qu'on trouve peut-être un sélectionneur meilleur que lui. Mais moi, je lui fais confiance.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et surtout rendu à ce moment-ci, là, c'est vraiment pas le temps de changer. Alors que tu viens de passer une trêve internationale, puis après ça, il y a la Copa qui s'en vient à très grands pas. C'est vraiment pas le temps. Et aussi, ben, ne pas oublier les soucis financiers là, de Soccer Canada qui font peut-être en sorte que c'est pour ça qu'on a gardé Biello parce qu'on n'a pas nécessairement d'argent à mettre sur un nouveau sélectionneur. Donc, voilà. Aussi, juste parler brièvement là, d'un autre scandale linguistique avec la CONCACAF et le Canada, Mauro Biello qui s'est fait dire de répondre en anglais à une question. Donc, ça a ravivé les mimes de garder là votre anglais et tout. Mais bon, CONCACAF s'est excusé, je pense bien. Là, mais bref, ça fait quand même quelques temps, on n'ira pas là-dessus, mais je pensais quand même bon de le mentionner. Maintenant, on pourrait se diriger vers le CF Montréal, qui connaît quand même un très bon début de saison. C'est sûr que le dernier match à Chicago nous laisse un peu amer de comment ça s'est déroulé, mais quand même, c'est un excellent début de saison du côté du CF Montréal. Jusqu'à maintenant, qui n'a disputé que 4 matchs et tous sur la route, samedi prochain contre DC United. Baptiste, tes impressions de ce début de saison montréalais?
Ben, moi, je trouve que c'est vraiment un autre visage qu'on voit par rapport à l'ère Hernan Losada. Laurent Courtois amène vraiment sa patte, son style de jeu. Puis surtout, il dégage quelque chose sur le banc de vraiment intéressant. Tu le vois comment il coach, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui a envie. Puis tu vois que les joueurs ont envie de jouer pour lui. Alors que Losada, on voyait qu'il avait clairement perdu son vestiaire. Là, on en a déjà parlé dans les JBR précédents. Mais Laurent Courtois, pour l'instant, a vraiment l'air d'avoir fait comprendre au groupe qu'il y a un objectif commun. Puis que même s'il y en a qui ne jouent pas pour le moment, à un moment, ils vont être appelés. Puis ça semble réussir à Montréal. Puis pour revenir sur le dernier match, on en a parlé beaucoup dans la conversation de l'arbitrage, entre autres, mais j'avais vu des commentaires sur Twitter, puis je trouve ça vraiment intéressant, c'est que la défaite à Chicago des 4-3 va probablement plus apprendre au groupe et plus leur servir qu'une victoire 3-1 qui n'aurait rien signifié avec deux pénalties dans le camp inverse. Donc, on va pas s'énerver après deux semaines, mais pour l'instant, beaucoup de positifs pour Montréal, même s'il y a quand même beaucoup de choses à travailler. Mais il y a beaucoup de place à l'amélioration encore.
Tout à fait. Bon, l'arbitrage, j'aimerais qu'on en parle. Ça fait quand même deux semaines, ce match-là. Mais ça fait beaucoup jaser. Moi, j'ai vu je l'avais envoyé dans la conversation, quelqu'un qui analyse les décisions arbitrales. Premièrement, là, à la défense des arbitres, il y a un lock-out. Il y avait un lock-out des arbitres qui faisait en sorte que c'était tous des arbitres remplaçants et non professionnels. Ben, ils étaient professionnels, mais ils n'étaient pas les arbitres typiques MLS qui étaient à la barre des premiers matchs de la saison. Donc, il y a ça. Ensuite, quand on regarde, par exemple, la situation de hors-jeu, c'était sur le premier but de Chicago, si je ne m'abuse. Ouais, c'est sur le premier but de Chicago que probablement qu'il y avait hors-jeu. Le problème dans cette situation-là, c'est qu'on n'a pas la reprise qui nous montre la ligne exacte de hors-jeu. On est en décalé. Et ça, je mets la faute sur Apple TV, j'imagine, parce que d'habitude, dans toutes les compétitions, tu as ça, la reprise directement alignée avec le juge de ligne qui va voir directement en ligne droite s'il y a hors-jeu ou non. Là, on était complètement décalé et donc on ne peut pas être 100% certain qu'il y a hors-jeu. Donc, à ce moment-là, ben, je n'ai pas le choix de dire qu'on ne peut pas renverser la décision quand tu es 100% certain. On n'a tout simplement pas la bonne reprise. Premier point là-dessus. Ensuite, le corner qu'on a donné, le corner qu'on a donné à Chicago, qui aurait dû être un coup de pied de but pour Sirois et le CF Montréal. Mais encore là, c'est très difficile de dire dans le feu d'action si ça a touché ou non. C'était à Alvarez, je crois. Donc, on ne peut pas dire à l'arbitre, il aurait dû. Coller autre chose là-dessus parce que c'est quasiment impossible à voir dans le feu de l'action, comme je disais. Donc, on a chialé sur l'arbitrage, oui, ça n'a pas été vraiment un bon match pour l'arbitrage, mais je veux dire, c'est des décisions qui s'expliquent et qui s'excusent. Puis, est-ce qu'on aurait fait différemment dans cette situation-là? Je ne crois pas parce que quand tu regardes les trucs, selon moi, ben, l'arbitre a fait ce qu'il avait à faire quand même, autant leur jeu que le truc de corner. C'était ça qui était ça. Là, il y a le carton rouge qu'on pourrait revenir là-dessus. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres opinions. Là, Thomas, Tom, tu semblais...
Non, ben, c'est juste pointé que c'était les arbitres de remplacement. Mais tu avais... C'est sûr que le fait qu'ils soient des arbitres de remplacement, ça joue un peu sur la qualité d'arbitrage, évidemment. Mais je pense que l'ECF aussi ne s'est pas aidé nécessairement. Je pense que je ne dirais pas qu'il méritait de perdre le match, mais de la façon dont la rencontre s'est déroulée, on sentait que défensivement, c'est un peu écroulé. Donc, aussi, oui, l'arbitrage a eu un facteur dans la victoire de Chicago et aussi le vent, évidemment.
Le vent.
Mais le CF, c'est pas aidé dans aucun rencontre.
Hans-Baptiste, vous autres, par rapport à l'arbitrage, vous en parliez quand même beaucoup dans le groupe. Est-ce que vous êtes en accord avec mes propos?
Je vais laisser Hans répondre en premier.
Ouais. C'est sûr que l'arbitre, c'est pas lui qui te fait nécessairement gagner ou perdre un match, mais c'est sûr que après une mauvaise, deux mauvaises ou trois mauvaises décisions, ça commence à te nuire un peu. C'est sûr que le CF aussi s'est pas aidé. Ils ont tiré une balle dans le pied de la façon comment ils ont réagi après mener au score à 3-1. Mais bon, ce samedi, les arbitres qui étaient en grève, là, ils vont revenir. Donc, on va voir s'il y aura vraiment un réel changement. Après, ça se peut que, comme tu as dit, là, les arbitres ont fait leur possible, puis c'est difficile à juger dans le feu de l'action, notamment sur le corner ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a des décisions qui auraient pu être revues. Tu sais, à un moment, le gardien adverse de Chicago sort de sa ligne pour intercepter un ballon, ça touche sa main. Ou faut, tu sais, c'est au moins des trucs que tu devrais aller regarder à la reprise vidéo. Mais écoute, là, il faut que ça soit... T'sais, moi, si je suis Laurent Courton, il faut que cet épisode-là soit derrière nous puis qu'on se concentre sur les prochains matchs à venir parce que le classement dans l'Est, ça va être serré. Là, on est actuellement sixième avec un match en moins là, quand même. Mais les arbitres, ouais, pour revenir à ta question, c'est sûr qu'ils n'ont pas aidé le code du CF. Mais là, c'est chose du passé là maintenant.
Ouais, puis tu parles du gardien qui est sorti et qui s'aurait touché à sa main. Dans l'analyse que j'avais lue, comme quoi sa main était en position naturelle et à ce moment-là, j'avais trouvé ça tiré par les cheveux un peu parce que dans ma tête, quand un gardien touche avec la main à l'extérieur de sa surface, ça devrait être une faute directement. Ouais. Mais bref, c'est ça qui est ça. Baptiste, je te laisse. Puis aussi, si tu veux nous parler du carton rouge à Ryan Midward, tes impressions sur cette décision-là?
Ben, ouais, rapidement sur Ryan Edwards. Moi, personnellement, je trouve que c'est limite pour siffler. Après, je comprends qu'il y a débat. Puis je comprends, après révision, après avoir revu les reprises, je comprends qu'il peut avoir rouge. Même si, personnellement, en tant qu'arbitre, je n'aurais probablement pas donné le rouge. Mais je peux comprendre qu'il l'ait reçu. C'est surtout une erreur de la part d'Edwards qui met ses coéquipiers dans le pétrin pour la suite du match. Mais moi aussi, comme Hans l'a dit, puis toi, Lee, c'est vraiment la main de Brady que je comprends vraiment pas où les arbitres se sont dit que c'était correct puis qu'il pouvait ni avoir de faute, ni de jaune, ni de rouge. Là. Surtout, c'est clairement une occasion de but annihilé. Ouais. Si tu regardes les règles du jeu, c'est carton rouge à tous les jours. Donc, c'est surtout cette erreur-là qui est difficile. Les autres, c'est des erreurs, on va dire, un peu plus humaines.
Ouais. Là-dessus, je suis très d'accord avec toi. Puis Edwards, moi, je pense, comme tu l'as dit, c'est surtout ça. Là, c'est que... Et maintenant, ce que j'ai aimé, c'est que quand il a donné son coup de coude à son opposant de Chicago, mais le gars de Chicago ne s'est pas couché à terre en faisant semblant. Il est resté debout. Et puis, c'est grâce à la VAR qu'on a pu aller voir ce geste de Edwards qui, tu regardes le règlement encore une fois, c'est un geste intentionnellement violent, peu importe la force avec laquelle il a donné son coup de coude. C'est rouge pour moi. Et bien, bravo je ne me rappelle plus c'est à qui, mais au gars de Chicago qui ne s'est pas écroulé par terre en faisant semblant, qui est resté sur le jeu et que grâce à la VAR, Edwards a été pénalisé. Ça rend le foot tout simplement plus beau à mes yeux. Ensuite, maintenant, bon, CF Montréal, donc, qui va jouer samedi contre DC United. CF Montréal, qui était la première équipe à battre Inter Miami également. Niveau du classement, je crois qu'ils sont sixième, voilà, sixième Montréal, derrière un certain Toronto, mais on a un match en main pour Montréal. Et tant mieux de voir Montréal et Toronto là, dans les séries pour le moment. Ça va faire qu'accentuer cette rivalité, j'ai l'impression. Mais si on délaisse le CF Montréal et qu'on se dirige côté de la Ligue des champions, d'où j'espère que t'es là et avec nous, parce que ben, j'aimerais que tu me parles en fait des différents affrontements qu'on a eu lieu en huitième. Peut-être celui, un de ceux qui a été le plus divertissant, Atlético Madrid contre Inter Milan. L'Atlético qui passe d'Antoine Griezmann avec quand même une performance solide là, et qu'on est allé jusqu'aux prolongations, au tir au but contre l'Inter Milan. S'il y a d'autres confrontations dont tu veux me parler aussi, vas-y.
Mais pour moi, c'était sans surprise, c'était la confrontation la plus intéressante des huitièmes de finale. Heureusement que là, avec les quarts de finale, on va avoir droit à des chocs de plusieurs grosses clubs européennes. Donc, bref, pour revenir rapidement à Inter vs Atlético Madrid. Écoute, c'est un match quand même relativement équilibré, hein, parce que surtout au match retour, l'Inter a marqué le premier but. L'Inter quand même dominé la première demi de cette rencontre-là. Et par la suite, Atlético Madrid est revenu rapidement dans le match, a créé l'égalité. Également aussi, il y a eu une entrée d'un joueur, je ne me rappelle plus c'est qui, mais un latéral gauche ou un ailier gauche, je ne me rappelle plus trop. Ça, faudrait m'en venir là-dessus. Je vais revenir un peu plus tard, qui a vraiment fait la différence contre l'Atlético de Madrid. Et évidemment, l'entrée en jeu de Memphis Depay en fin de rencontre qui a été décisif, a créé l'égalité, donné les devants techniquement 2-1 à l'Atlético de Madrid dans la rencontre, mais permis à l'Atlético de créer l'égalité dans le cumulatif des buts. Par la suite de la prolongation, les deux équipes ont eu plusieurs chances, mais là, on voyait que de plus en plus, l'Atlético Madrid avait l'ascension dans la rencontre. Marcus Thuram, malheureusement, a raté une grosse chance aussi qui aurait pu... en fait, à deux reprises, Marcus Thuram aurait pu permettre à son équipe de l'emporter, puis ça n'a pas été le cas. Et malheureusement, dans la séance de tir au but, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est l'expérience qui a fait la différence du côté de l'Atlético Madrid. Tu avais des joueurs plus expérimentés. Tu as Jan Oblak, qu'on oublie souvent, qui est un des gardiens les plus sous-estimés au monde, qui est un des meilleurs gardiens de but au monde depuis 7-8 ans, qui a été excellent dans la séance de tir au but. Et malheureusement, Lautaro Martinez, ben, qui a malheureusement permis à son équipe de rentrer chez elle au lieu de jouer une quart de finale. Malheureusement, c'est triste pour Lautaro Martinez et l'Inter, mais malheureusement, écoute, pour l'Inter, qui était une des équipes favorites, en tout cas, si on regardait leur saison absolument incroyable du côté de la Serie A, qui malheureusement...
Ouais, en Europe, c'est un des meilleurs clubs.
Et heureusement pour l'Atlético Madrid, écoute, le retour de Griezmann est arrivé au bon moment, mais là, Griezmann est encore blessé un peu, donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer contre le BVB, mais Griezmann va être quand même là, mais Griezmann a quand même fait toute une différence cette rencontre-là aussi, là, a joué au-dessus de comme quoi, au-dessus de 105 minutes, malgré qu'il revenait de blessure, donc non, c'est pour vrai dans l'ensemble un excellent match, ça a été de loin le meilleur match, la meilleure confrontation, pardon, des huitièmes de finale. Puis, sans surprise, ben, c'était le meilleur match.
Ouais, puis Griezmann, je pense, a raté son premier match en équipe de France depuis.
C'est quelle année, là?
2017.
C'est quand même. Et ça a paru en constate, plus. Là. Ça a tellement paru l'absence de Griezmann. Là. Griezmann, là, je l'ai sous-estimé pendant très longtemps. Puis surtout sous-estimé l'impact de Griezmann en équipe de France. Mais on dirait que surtout le système de jeu de Didier Deschamps fait que Griezmann est probablement le seul gars qui est capable de créer de l'attaque à l'équipe de France puis qui a un jeu créatif. Parce que là, en ce moment, on voit l'équipe de France, tu as beaucoup de joueurs costauds physiques, mais à des profils similaires. Puis le fait que tu n'as pas un Griezmann qui est genre, on dirait un mélange d'un 10, puis ben, en fait, c'est plus un faux 9 et un 10, mettons, qui est plus la position que Griezmann a en équipe de France. Mais son absence a complètement fait un complément nuit à l'équipe de France. Puis ça m'inquiète quasiment pour la Coupe du Monde, mais pour l'Euro. De voir si Griezmann n'est pas capable d'être à 100% pour cette compétition-là. Mais bref, c'est juste un petit...
Donc, ce que tu es en train de me dire, Dou, c'est que Griezmann sera ballon d'or?
C'est pas ça que je dis! C'est pas ça que je dis, mais je dis juste que le gars a quand même tout un impact pour ces deux formations, que ce soit l'Atlético Madrid ou en sélection nationale avec l'équipe de France.
Voilà. Personnellement, ouais, je suis bien content de voir que l'Atlético a le potentiel de se rendre loin cette année. Je pense que.
Pas sûr, moi, mais bref.
C'est une équipe qui est sous-estimée. Puis, Simeone, en plus, je pense que c'est sa dernière année à Madrid ou devrait quitter prochainement. Ouais. Je pense que c'est une belle façon de terminer cette ère à l'Atlético.
Simeone est sur le départ.
J'ai pas vu ça.
Je pense qu'il y a un départ.
Simeone est sur le départ et bien ça, ça
va. Oui, bien sûr que. En tout cas, j'en ai entendu parler sur autant. Je sais pas si ça a changé depuis.
Moi, j'ai
bref,
pas entendu ça.
À suivre. À suivre, c'est ça. À suivre, comme je l'ai dit. Mais oui, tu as raison, l'Atlético Madrid, ben, c'est prenable, là, je pense, contre Dortmund pour la suite des choses. Mais avant de se penser sur les confrontations pour les quarts, ben là, on va revenir rapidement sur les autres. Bayern, Lazio, donc après une petite frousse du Bayern, on est bien revenu, puis on a battu la Lazio 3-0 au retour. Paris qui s'est défait de la Real Sociedad 4-1 également. Madrid-Leipzig, ça a été quand même assez compliqué pour le Real. 2-1 au cumulatif contre Leipzig. City contre Copenhague, ça a été plutôt facile. Barcelone-Naples, ça a été assez divertissant malgré que le Barça a bien fait son match retour et l'emporte 4-2 au cumulatif. Dortmund, assez, pas paisiblement, mais quand même un 3-1 cumulatif contre le PSV. Mais Tom, je voulais que tu me parles d'Arsenal qui a gagné seulement 1-0 contre Porto. Ça a nécessité les pénalties même lors du match retour. Et finalement, 1-1 au cumulatif, 4-2 au pénal. Parle-moi de tout ce que tu as vécu là, durant ce match d'Arsenal, cette confrontation Arsenal-Porto.
Ben, écoute, au match aller, c'est définitivement un match à oublier, comme que Douai me rappeler. Aucun tir cadré par Arsenal à l'étranger. Vraiment, Arsenal était pas capable de rien créer offensivement. Et bon, sur le dernier ballon du match, Porto qui marque un goal à Dio, un superbe but. Faut leur donner. Mais vraiment, au match retour à l'Emirata, je pense que Arsenal a vraiment mieux sorti qu'au match aller. Même si on rencontre très difficile, Porto qui jouait très bas, très, très défensif. Pepe qui semblait 10-15 ans plus jeune. Et vraiment, les chances étaient abondaient peu pendant les 120 minutes. Mais vraiment, je pense que Porto s'est tiré dans le pied lors des pénalties. Chaque pénalty, on tirait du même côté, en fait. Donc, pour Raya, ça n'a pas été trop compliqué. Et vraiment, écoute, premier quart de finale depuis 2011 contre Bayern, ça ramène des mauvais souvenirs. Ouais. En fait, fun fact, le premier match d'Arsenal que j'ai vu en tant que fan d'Arsenal, c'était le match retour contre Bayern en 2017. Donc, écoute, c'est sûr que de mon côté, j'espère un meilleur résultat qu'il y a 7 ans. Mais ça risque d'être compliqué pour eux.
J'aimerais que tu me parles aussi de Kai Havertz qui est sur une folle séquence quand même ces derniers temps. Est-ce que tu as repris confiance en ce joueur?
Oui, parfait. Je l'ai jamais perdu. Non, écoute, sérieusement, je pense que Arteta a trouvé son rôle pour lui. Avec Arsenal, et vraiment, il a eu le temps de s'adapter, de trouver, j'ai l'expression en anglais, mais « find his footing » dans l'équipe d'Arsenal. Il joue son rôle à merveille dernièrement, vraiment réussi à produire, à marquer, à créer des bonnes chances. C'est sûr que du côté de la finition, il en manque encore un peu, mais je pense que ça va toujours être un peu un problème de Kai Havertz, sa finition, mais vraiment, je suis vraiment plus satisfait de cette signature qu'au début de la saison. Je pense pas qu'il vaut de 60 millions, mais il s'approche beaucoup plus de son prix qu'au début de la saison.
Oui, il doit aller. Je vois que tu veux intervenir.
Non, je vais juste vous dire que je vais partir puis, de l'épisode, mais que oui. Bonne fin. Bon fin d'épisode. Et je vais juste dire rapidement mes prédictions en 30 secondes
ouais,
pour les quarts de finale. Je vais commencer avec Atletico et BVB. Ça va être un match vraiment intéressant. Mais je pense que l'Atletico va s'en sortir. PSG-Barcelone. Moi, je pense qu'après le match de Barcelone contre Atletico Madrid, ça va être plus serré qu'on le pense. Et je pense même que ça va être le match le plus serré des quarts de finale. Mais le PSG devrait s'en sortir parce que Mbappé est dans une séquence absolument incroyable. City-Real Madrid. Je suis désolé, mais après la performance du Real contre Leipzig, si ce n'était pas de manque de finition des joueurs de Leipzig, le Real ne devrait même pas être encore de finale en ce moment. Donc, pour moi, ça va être une victoire sans équivoque de City, surtout que le match retour est à l'Etihad Stadium. Donc, voilà pour ça. Et Bayern-Arsenal, bon, c'est deux équipes complètement différentes de 2007. T'as un Arsenal qui est en montée. T'as Bayern de Munich qui est en difficulté depuis le début de la saison. Ne je vois pas dans quel monde Arsenal peut gagner un match à Munich. Donc, voilà. Pour cette raison-là, je prends
Munich pour battre Arsenal.
Mais c'est beaucoup plus sérieux que 2007, par contre. Ça, c'est vrai.
Pas besoin de gagner à Munich. J'ai besoin de...
Avec zéro tir cadré. Zéro tir cadré. Aucune chance que vous gagniez à Munich. Zéro. Juste zéro. Impossible. Bref, sur ce... Les gars,
c'est un départ en force, comme on appelle le 12. C'est un départ en force. Merci allez, grandement ciao. Pour ça. Ciao. Oui, donc, Dou qui devait vaquer à d'autres occupations, ce qui nous laisse à quatre messieurs. Puis, bon, Dou les a mentionnés, mais je revenir sur ces confrontations en quart de finale qui sont vraiment très alléchantes là, après avoir eu des huitièmes de finale un peu moins divertissantes, disons. Là, on a du bonbon là, devant nous. Bon, Atlético Madrid contre Borussia Dortmund, comme Dou a dit, ça va être extrêmement intéressant. Atlético Madrid, qui est une équipe de Champions League, honnêtement, qui on l'a vu contre l'Inter Milan, qui est capable de revenir dans des gros matchs. Quand on pense qu'ils sont finis, ben ils reviennent. Ils sont très forts là-dessus. Dortmund, qui connaît une bonne saison en Champions League aussi, ça va être intéressant de voir. Paris-Barcelone, c'est niveau historique récent, là, on sait très bien là, qu'est-ce que ça signifie cette confrontation. Donc, ça va être très, très beau de voir ça également. Puis, de l'autre côté, c'est majestueux aussi. Arsenal-Bayern également, comme le disait Dou, un historique très assez récent, là, 2017. Et Real Madrid-City, c'est encore plus récent. Là. On se rappelle très bien la performance de Benzema contre City, contre plein d'autres récemment, l'an dernier également. Donc, vraiment, c'est du très beau foot qui s'annonce devant nous. Je vais me prêter au jeu des prédictions peut-être en premier, là, vite comme ça. Atlético-Dortmund, c'est extrêmement difficile à dire. Je pense que l'expérience de l'Atlético est belle, comme le disait Dou. Mais je ne sais pas, j'ai quelque chose qui me dit que Dortmund peut se rendre loin cette saison. Ensuite, du côté de Paris et Barça, je crois vraiment que pour une fois, parce que Paris a souvent été malchanceux dans ses tirages, il faut dire, dans les dernières années en Ligue des Champions. Mais là, la meilleure portion de tableau pour se rendre en finale. Barça, ça ne sera pas facile, mais je pense quand même que le Paris Saint-Germain est supérieur et se doit de remporter cette confrontation. Puis ensuite, que ce soit contre l'Atlético ou contre Dortmund, c'est très prenable pour le PSG. Je les vois donc en finale. Et de l'autre côté, Arsenal-Bayern, je penche vers le Bayern, mais Arsenal a ses chances. Là, de Tom Croisi, Arsenal, je crois, a ses chances. Je vais quand même prendre le Bayern parce que c'est un choix plus sécuritaire. Puis Real Madrid-City, je suis assez d'accord avec Dou là-dessus, qui disait que le Real est plus en difficulté en Ligue des Champions, du moins, on l'a vu contre Leipzig. Je vois City remporter cette confrontation, ce qui me laisserait à une finale Manchester City contre Paris Saint-Germain, parce que je crois que City va se défaire du Bayern. Donc, ce serait mes prédictions de mon côté. Hans, vas-y, lance-toi dans ce jeu.
Arsenal-Bayern, je pense que Bayern va passer. Pas facilement, par contre. Ça va être plus difficile à l'extérieur. Je sais que c'est un Bayern qui est moins en confiance, qui est moins dominant aussi sur la scène européenne que dans les dernières années. Déjà, dans leur championnat, ça va pas très, très bien, malgré qu'ils sont en bonne posture. Mais donc, je les vois quand même passer contre Arsenal. Après, City contre Madrid, pense que je vais pencher vers City qui roule très, très bien encore, comme l'année passée. Real Madrid aussi, c'est une très bonne équipe, mais je pense que City a un petit peu le dessus sur les Madrilènes. PSG-Barça, je pense que ça va être l'affrontement qu'on a tous hâte de voir comment ça va se dérouler. Ça va être Mbappé, voir qu'est-ce qu'il va donner. Mais je pencherai plus côté Barcelone encore une fois. Contre un PSG que moi je trouve qu'il n'est pas nécessairement rassurant malgré les bonnes performances de Mbappé, mais c'est pas toute son équipe qui arrive à suivre malheureusement. Donc c'est peut-être là que le Barça pourra jouer.
Mais tu trouves le Barça rassurant?
Pas tant, mais je pense qu'ils sont capables de. Je pense collectivement, ça sort mieux que le PSG. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence. Selon moi, là. Puis Atletico Dortmund aussi, ça va être très intéressant. Je pense pas ça va être.
Je suis content. Mais...
Au score. Mais pense à Atletico sortirait gagnant de ce duel-là. Donc pour moi, Bayern passe, City passe, le Barça passe, puis l'Atletico passe.
Et ta finale, ce serait?
Finale, City-Barça.
City-Barça, ok. Intéressant. Baptiste, donc est-ce que tu penches plus du côté de Hans niveau PSG-Barça? C'est vraiment ce duel là, qu'on semble plus départager. Ou tu es plus du côté comme moi, que le PSG a quand même un chemin tracé vers la finale s'ils ne déçoivent pas, là, évidemment, là?
Moi, je pense que ça dépend d'un seul homme, Kylian Mbappé. Honnêtement, je pense que Paris est vraiment Mbappé dépendant, on va dire. Je veux dire, en huitième de finale, s'il n'est pas là, limite la Real Sociedad peut battre Paris. Donc, je suis d'accord avec Hans que le Barça a une meilleure équipe, un meilleur effectif, un meilleur collectif que Paris. Mais je pense quand même que Mbappé est un gars qui peut faire la différence. Puis c'est ce qui va permettre à Paris de passer au prochain niveau. Par contre, moi, là où je trouve que c'est un peu plus débat, c'est Atletico Dortmund. Dortmund, on le rappelle, sont sortis du groupe de la mort avec Paris, Milan, Newcastle. Mm-hmm. En première position.
Premier. Wow.
C'est ça.
C'est toute une saison avec les champions, le Dortmund.
Exactement. Donc, puis ils ont déjà fait une finale il y a longtemps, là, maintenant, de Ligue des Champions.
2013.
C'est pas une équipe, c'est ça, 2013, merci Ali. Donc, c'est une équipe qui n'est pas à prendre à la légère. Mais je pense que c'est là, moi, le duel qui m'attire le plus. Je pense que c'est vraiment Dortmund-Atletico. C'est souvent les duels qu'on attend le moins qui sont finalement les plus intéressants à l'image de Inter-Atletico au tour précédent. Donc, j'ai hâte de voir ça.
C'est vrai que c'est un des duels les plus serrés, là, mais je pense peut-être qu'on s'y intéresse moins, là, qu'on l'a moins mentionné du moins, parce que aucune de ces deux équipes-là sera en finale ou sera prétendante au titre, tant qu'à moi, du moins. Là. Mais c'est vrai que quand tu regardes les quatre confrontations, c'est une des plus intéressantes, effectivement. Tom, tu es le dernier à te prononcer. Voilà. Est-ce que tu vois ton Arsenal battre le Bayern, objectivement?
Non, je pense pas. Par contre, ça va pas se terminer de 6-2. Donc, c'est une victoire morale. Non, mais plus sérieusement, je pense que... Arsenal a des chances que la première rencontre va être à domicile. Il n'aura pas de fans du Bayern qui ont été bannis du match aller après certains comportements lors des huitièmes de finale. Donc, soit 60 000 fans d'Arsenal lors du match aller, ça pourrait jouer en faveur des Gunners. Par contre, le Bayern a l'expérience, a objectivement une meilleure équipe que Arsenal. Et ben, comme Dou a dit, je vois pas comment Arsenal pourrait remporter un match à Munich. Par contre, ils ont des chances s'ils accordent moins qu'en marque au match aller. Tout simplement. Par contre, je serais pas surpris qu'Harry Kane vienne hanter les Gunners encore une fois. Lui qui était très bon avec Spurs du derby du nord de Londres. Mais je m'attendais quand même à une victoire du Bayern. Bon, du côté City-Real, ça risque d'être vraiment une rencontre serrée. Par contre, je vois juste un avantage à City, puisque le match retour va être à City comme l'an passé. Également, le Real, avec les nombreuses blessures qui nous doivent faire face présentement, surtout avec le dernier. La dernière trêve intéressante qui a amené beaucoup de blessures, autant chez Real que chez City. Ça va être vraiment une confrontation serrée, mais je pense que City risque de l'emporter par la peau des fesses. Sinon, Atletico Dortmund, je m'attends à une victoire de l'Atletico. Par contre, encore une fois, ça va être une rencontre serrée. Et je pense que PSG peut l'emporter contre Barça. Mais encore une fois, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Mais je pense que Kylian Mbappé, s'il peut imposer son rythme, peut remporter un match à lui tout seul. Donc,
ouais, comme le disait Baptiste.
Exactement. Et pour ma finale, écoute, on traversera le pont rendu là. Écoute, il peut se passer tellement de choses d'ici les demi-finales.
Mais Manchester City est là, de ce qu'on comprend.
Non, ça va, vas-y.
OK, parfait. Donc, voilà. Puis aussi, pour revenir sur Barça-PSG, je pense que ce qui m'inquiète côté barcelonais, c'est surtout la défense là, qui encaisse énormément de buts en Liga. Mais bref, ça va être très intéressant à suivre cette confrontation. Et comme on l'a dit, Mbappé va être une clé là, de ce match pour les Parisiens. Bon, maintenant, les trêves internationales, les plusieurs matchs amicaux internationaux qui ont été très intéressants, honnêtement. C'est rare que je m'intéresse beaucoup aux matchs amicaux internationaux, mais dans les derniers jours, on en a eu des biens intéressants, à commencer par celui qu'on a évoqué, France-Chili. Le Chili qui affrontera le Canada en juin pour cette Copa América a été très intéressante contre la France, qui est non seulement une des meilleures équipes les plus talentueuses sur la planète. Ben, en fait, je pense, là, niveau sélection nationale, la plus talentueuse sur la planète. Également, beaucoup de profondeur, mais qui a eu énormément de misère contre le Chili, 3-2. Cette rencontre, la marque finale de cette rencontre. Hans, qu'est-ce que tu as pensé de ce match?
Je pensais que ça allait être une victoire assez facile pour la France, qui a un effectif qui pourrait aligner genre 3 effectifs là, carrément. Là.
Ouais.
Tellement ils sont bons. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, c'est le Chili, c'est une équipe qui n'abandonne pas, qui est capable de rentrer dans ta tête puis profiter de ces moments-là pour aller chercher des buts importants. On l'a vu. Moi, ce qui, justement, comme je pense que c'était Doug qui le disait tantôt, ce qui m'inquiète de la France, c'est sans Griezmann, sans sa créativité, sans ce qu'ils vont être capables d'aller chercher plusieurs occasions. C'est sûr que Mbappé est très, très bon. Il y a des bons joueurs offensifs, mais je pense que qu'est-ce que Griezmann apporte, c'est vraiment plus... il enlève un peu de responsabilité à Mbappé pour créer le jeu et il lui donne plus des ballons pour finir dans les derniers mètres. Fait que je pense que c'est ça qui a manqué à la France durant cette trêve internationale-là. Après, défensivement, ça s'est bien comporté. Au milieu aussi, on a revu Zaire Emery, Rabiot, tout le monde, Tchouaméni, qui ont fait des bons matchs. Ça a été plus compliqué contre l'Allemagne, par contre, qui est sorti vraiment agressif. Encore là, il y a des points d'interrogation un peu du côté français. Je pense que Didier Deschamps va rectifier le tout là, avec son staff. Je ne suis pas inquiet pour ça pour l'Euro. Mais c'est vrai que je n'ai pas vu la France comme je m'attendais à ce qu'elle sorte durant cette trêve internationale-là. Donc, c'est bon à voir que cette équipe-là doit se renouveler, qu'elle doit encore trouver des solutions pour gagner. Puis ça va juste faire en sorte que l'Euro va être encore plus intéressant cet été. Puis oui, c'est ça. Pour le Chili, écoute, c'est ce genre de match qu'on s'attend d'une équipe de même. Puis j'ai hâte de voir comment Canada pourra se comporter face à ça. Là, parce que c'est pas rien quand même tenir tête à la France.
Si je peux rajouter sur Hans, ouais. Moi, c'est vraiment, comme Hans a dit, le match contre l'Allemagne, c'était une domination de l'Allemagne. Vraiment, pour les Allemands, c'est extrêmement rassurant. Là, ils ont fait un match incroyable. Florian Wirtz, il confirme sa saison avec Leverkusen. Un but au bout de 6-7 secondes, ça a vraiment été une démonstration. Puis, à l'inverse, la France, Mbappé a été catastrophique dans les deux matchs, on peut dire ce qu'on veut.
Ouais, muselé complètement contre le Chili. Là.
Ouais, muselé complètement.
Puis c'est le Chili, c'est pas la même.
C'est ça. On dirait qu'il avait même pas envie d'être là. Puis je trouve que c'était dommage en tant que capitaine. Puis, comme vous avez dit avec Griezmann, je pense surtout que l'absence des joueurs, des retraités, Lloris, elle était plus grande que ce qu'elle était, sa présence. Même Steve Mandanda, qui était deuxième gardien. C'est des présences comme ça, des Raphaël Varane, des joueurs comme ça qui amènent un caractère, un leadership. Je pense que c'est ça qui pourrait faire peur aux Français lors de l'Euro l'été prochain. Surtout dans un groupe qui ne va pas être si simple qu'on le pense. Puis voilà. Je ne sais pas si vous avez vu justement là, l'Autriche qui a battu 6-1 la Turquie.
Ouais.
C'est fou, là. Ouais. 6-1 contre la Turquie. L'Autriche avec... Je ne me rappelle plus le nom de l'entraîneur, mais c'est celui qui avait pris Man United en relève. Là.
Rangnick.
Ouais, Rangnick, c'est ça.
Ralf Rangnick, oui, voilà.
Depuis qu'il est là, c'est vraiment impressionnant. L'Autriche, je pense même qu'il pourrait créer la surprise à l'Euro dans la phase de groupe. Mm-hmm.
Mais tu as parlé de l'Allemagne là, avant qu'on revienne à la France. Là. Vraiment, tu l'as dit, c'est très, très rassurant. Les deux performances, à la fois contre la France et la victoire contre les Pays-Bas également. Je vais parler de Florian Wirtz. Le retour de Toni Kroos également en sélection nationale, lui qui avait pris sa retraite. Quelle bonne nouvelle pour l'Allemagne. Ici, ben, j'ai l'impression qu'en raison de ses dernières performances en compétition internationale, que ce soit Coupe du Monde et Euro, l'Allemagne, on la sous-estime peut-être un peu dernièrement, mais je pense vraiment qu'elle pourrait revenir en force dans cette prochaine compétition. Écoute, dans les buts, tu as le choix entre Neuer ou Ter Stegen. Là, le Neuer est peut-être un peu, peut-être pas à 100% dernièrement. Mais bref, t'as vraiment un effectif. Il y a en attaquant de pointe, là, il y a un point d'interrogation, mais vraiment, je pense que bien structuré, l'Allemagne peut revenir en force pour le prochain Euro. Si on revient vers la France, parce que j'en avais pas fini avec eux, Marcus Thuram ou Olivier Giroud ou un autre en attaquant de pointe, un Colomoigny, qu'est-ce qu'on va faire de ce côté-là, du côté de l'attaque? Mbappé, c'est assez certain, mais le reste du front offensif, avec quoi on va se diriger, Hans, Baptiste, peu importe. Allons-y avec Hans en premier.
Ouais, mais moi, je pense que j'irai avec Olivier Giroud. C'est pas le plus flamboyant, c'est pas le plus rapide. Par contre, qu'est-ce qu'il peut apporter? Ça fusionne bien avec les qualités de Mbappé parce que deux joueurs qui vont aller vite vers le terrain, vers le but, excusez-moi, ça va nuire un peu à ce que Mbappé peut faire. Tandis que les déplacements de Giroud, c'est des trucs que quand on regarde la télé, on ne voit pas nécessairement, mais quand on essaie d'analyser son match, puis on met vraiment la caméra sur Giroud, on voit qu'il libère beaucoup d'espace pour Mbappé pour aller vers le 1 contre 1, qui rentre vers son pied fort ou aller sur son pied gauche. Ça laisse beaucoup plus d'espace à Mbappé surtout et beaucoup plus de temps pour lui à faire ses dribbles ou à réfléchir. Donc, je pense que les deux se complémentent très, très bien. Tandis que Thuram, c'est un profil différent du 9, plus explosif ou quoi que ce soit, mais je pense que pour laisser plus d'espace à Mbappé puis le laisser plus s'exprimer sur le terrain puis le voir offrir plus de belles choses, je pense qu'il faudrait le mettre avec Giroud qui est capable aussi d'aller chercher des ballons bas ou à la tombée des ballons, les gagner pour se tourner puis donner à Mbappé ou bien juste être le renard de surface qui va récupérer les rebonds des tirs d'Mbappé. Je pense que c'est ce que la France a besoin, surtout pour avoir un Kylian Mbappé qui peut s'exprimer à 100%. Fait que j'irai avec Olivier Giroud sans rien enlever à Thuram, par contre.
Je suis bien d'accord avec toi. Je pense que Thuram est une très bonne ressource en fin de rencontre. On l'a vu en finale de Coupe du Monde, comment il a redynamisé là, l'effectif français à sa rentrée. Mais je suis d'accord que Giroud est un meilleur complément à Mbappé pour débuter une rencontre. Baptiste, en accord avec ça, ce serait quoi le front offensif en fait? Mbappé, Giroud également de ton côté, puis est-ce qu'on met Griezmann sur l'aile même s'il va descendre plus? Qu'est-ce que tu fais de ce côté-là?
Honnêtement, premièrement, je suis très content des propos de Hans parce que Giroud, c'est un joueur que je défends depuis toujours, puis très rarement les gens sont d'accord parce que les gens regardent, puis c'est comme Hans se dit, c'est pas un joueur flamboyant. Mais ce qu'il apporte dans le jeu, quand tu analyses, c'est vraiment
incroyable. Les gens vont dire pas de tir cadré en 2018 et tout. Là.
Exactement, mais même s'il n'a pas marqué, il a quand même été incroyable dans son apport dans le jeu. Donc, mais que pour revenir au sujet, je pense que moi aussi, j'irai avec Giroud en pointe, comme Anne se dit. Le trio offensif, Ça dépend comment la France joue. Griezmann, j'avais beaucoup aimé au milieu, donc je pense qu'il va prendre réapparaître dans ce milieu-là, là, comme en 2022 à la Coupe du Monde. Puis le front offensif, je pense que ça va être Giroud, Mbappé. Puis Dembélé. Le seul point qui est énervant, c'est qu'il ne conclut pas, il ne marque pas ce gars-là. Mais tout ce qu'il fait, c'est bon. Tout ce qu'il fait dans le jeu, c'est bon. Il accélère, il élimine des gars, il fait des centres.
Mais je dirais
juste qu'il n'y a pas de finition.
Plus que la finition, je dirais toute la phase d'exécution finale, même quand c'est le temps d'aller délivrer la passe décisive qu'il faut, j'ai l'impression qu'il y a un manque de ce côté-là. Parce que même niveau passe décisive, c'est pas des statistiques monstrueuses, je pense, là, du côté de Dembélé. Malgré qu'on pourrait s'attendre à ça avec, comme tu dis, il arrive à effacer des gars, il arrive au dernier tiers et tout, mais c'est toute la dernière phase exécutive, je trouve, dans son jeu qui laisse à désirer, tant qu'à moi. Mais j'avoue que je pense que c'est le meilleur... j'avais oublié Dembélé en posant la question, mais je pense que c'est le meilleur front offensif possible pour la France présentement, niveau collectif, Mbappé, Giroud et Dembélé. Puis après ça, on parlait de profondeur. Tantôt, t'as des Coman, t'as des Nkunku, t'as des Moussa Diaby, t'as des Marcus Thuram et t'en as plein. Là. Donc, la profondeur puis des solutions, il y en a plein côté français. Au milieu de terrain, Baptiste, Tchouaméni, avec un Camavinga sur le banc, je crois.
J'aurais une question à poser avant que je parte. Saliba, est-ce que vous seriez prêt à le faire jouer?
J'allais te poser cette question, Tom. On peut y aller tout de suite, là, mais ta charnière centrale niveau français, parce que on a dans les 10 derniers matchs, Didier Deschamps est allé de 10 charnières centrales différentes. Je ne sais pas si vous avez vu cette stat, mais c'est complètement fou. Pavard, Lucas Hernandez, Upamecano, Konaté, Saliba. Toi, ce serait quoi ta défense? Ta charnière centrale française, Tom? Didier Deschamps semble ne pas vouloir tant que ça aller vers Saliba, là, étonnamment, je trouve.
Mm-hmm. Ben, c'est parce que je pense que du côté de Saliba, contrairement à Arsenal, en équipe de France, c'est évidemment pas le premier choix. Je dirais même que c'est le troisième, quatrième choix en termes de défenseur central. Donc, il n'y a pas la confiance l'aisance, en fait, de pouvoir jouer son jeu sans s'inquiéter pour son poste. Puis je pense que ça joue un peu dans son style de jeu, dans la manière qu'il joue en équipe de France. Parce que, faut pas l'oublier, il a 21 ou 22 ans, il est encore très jeune. Donc, je pense que la confiance à cet âge-là, c'est quelque chose qui est très important. Puis quand tu sens que t'as pas, qu'il faut que tu te battes pour ton poste, puis qu'il faut que chaque fois que tu joues, qu'il faut que tu sois absolument parfait, sinon tu seras pas sélectionné au prochain match. Je pense qu'à cet âge-là, c'est un peu normal, je dirais, d'être un peu crispé dans ton jeu. Puis je pense que ça vient pas aider Saliba. Par contre, ma charnière centrale pour l'Euro, je pense que j'irai avec un Konaté et Hernandez ou Saliba. Je pense que ce serait les meilleures options. Oui, Varane a plus d'expérience, mais...
Varane a plus sa retraite internationale.
Ah oui, c'est vrai, Varane. Ah oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié, mais Upamecano au Bayern, c'est terrible. Honnêtement, je pense qu'il est mieux à droite. Koundé, il joue à droite au Barça, mais c'est une option centrale, mais depuis son arrivée au Barça, c'est loin d'être fameux. Donc, je pense que côté forme, je pense que Konaté, Saliba et Hernandez seraient les meilleures options.
Je vois. Ben oui, Saliba, en tout cas, quand il faut que tu nommes le meilleur défenseur central français au monde présentement, ben c'est William Saliba. Est-ce que c'est lui qui se fit le mieux, permettez-moi l'expression, dans le système de Deschamps? Ben, peut-être pas. Mais oui, donc merci Tom pour ça. Puis ben, sur le milieu puis sur la défense, Baptiste, là, si tu voulais continuer où tu en étais.
Ouais, ben moi, juste la défense, je suis pas totalement d'accord avec Tom. Je comprends. Puis Saliba, je l'adore, mais je pense pas que c'est pour tout de suite une place de titulaire. Moi, je dirais que la charnière qui a le mieux marché depuis la retraite de Varane, c'est-à-dire Upamecano, même s'il n'est pas en super forme, ça je vous l'accorde. Upamecano et Konaté, c'est les deux qui, la charnière qui a le mieux fonctionné. Donc, personnellement, ce serait ça. Puis au milieu, c'est comme à la Coupe du Monde 2022, je crois que c'est ce qui fonctionne le mieux, même malgré les essais de Deschamps. C'est Rabiot, même si ce n'est pas le plus flamboyant, je trouve que dans le jeu, il est tellement important, il joue vraiment bien. Même si la Serie A, peut-être que c'est un championnat qui est moins regardé, Rabiot joue très, très bien.
Vraiment, il est solide. Autant la Juve qu'en France.
Tchouaméni, je pense qu'il va avoir le dessus sur Camavinga, parce que j'ai l'impression que Deschamps, il voit beaucoup de comparaisons avec Pogba dans le jeu de Tchouaméni. Puis, ben, on sait que Pogba est un joueur très apprécié. Puis l'autre au milieu, comme je dis, pour moi, Griezmann, c'est là que Deschamps va l'insérer pour l'Euro.
Oui, tout à fait, avec, comme on disait, Dembélé sur l'aile. Pour la charnière centrale, écoute, je comprends tout à fait ton point. Upamecano, Konaté, c'est la défense centrale qui a le mieux marché dernièrement. Là où j'ai un bémol, c'est qu'on l'a dit, Saliba est clairement un meilleur défenseur qu'Upamecano présentement. C'est le meilleur défenseur central français au monde présentement. Donc, je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus essayé de l'insérer dans les schémas de jeu du côté de Deschamps en sachant que probablement que ça donnerait encore une meilleure charnière centrale que ce qu'on a présentement, Konaté ou Upamecano. Moi, je pense que Konaté, bon, encore le facteur biais de Liverpool, mais je pense qu'il est une valeur sûre en charnière centrale. C'est après ça où je pense que Saliba, si on l'avait mieux inséré, mieux adapté à ce système de jeu. Bon, salut Tom qui part à l'instant. Mais voilà, je pense que ça aurait pu. Ça pourrait être un meilleur choix encore si on l'avait adapté à ce schéma-là, ce que je trouve qu'on n'a peut-être pas assez fait. Voilà, pour ce qui est de l'équipe de France, on va passer à un autre sujet. L'Angleterre aussi qui a eu une trêve internationale assez intéressante. Un 2-2 contre la Belgique, mais quand même, Bellingham, Foden, qu'on a vu bien en jambes. On a vu également la profondeur de l'Angleterre avec des Jared Bowen, des Ollie Watkins. Très intéressant de ce côté-là. Brésil aussi avec Hendrick qui marque ses deux premiers buts pro avec le Brésil. Anne, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur Hendrick. C'était des buts assez facile, mais comment tu vois son début de carrière en sélection nationale pro?
Ouais, ben ses débuts, bon, on peut dire assez facile, mais il les a marqués quand même. Le but contre l'Espagne, ils reprennent une reprise de volée là, après un dégagement sur coup de pied de coin, ça rentre. Moi, j'ai surtout plus vu dans le match contre l'Espagne, très, très allumé, très vif, très explosif aussi. Qui n'a pas peur d'aller au duel, qui, malgré son jeune âge, n'a pas peur d'aller de provoquer les autres. Je me rappelle, il y avait un petit conflit avec Cucurella sur le flanc droit à un moment donné, mais c'est beau de voir qu'un jeune est de même. Je pense qu'il reprend un peu du style à Vinicius, là, après l'avoir regardé. Mais moi, je ne suis pas inquiet là, pour que ce jeune-là va avoir une belle carrière qui va commencer au Real Madrid là, très prochainement, parce que ça se voit qu'il est à l'aise techniquement, qu'il est même au-dessus de certains. Le physique qu'il a déjà, il a vraiment des énormes cuisses. Là. Il est bien bâti, il est vraiment solide. Après, la technique,
vraiment.
Aller vers l'avant, et là, puis il ne se gêne pas malgré qu'il y a des très bons défenseurs devant lui. Il a pas joué contre des oppositions faciles, il a joué contre l'Angleterre puis l'Espagne en deux matchs de suite. Puis je trouve qu'il ne s'est pas gêné. Il a essayé des choses, ça a raté des fois, mais de ce que j'ai vu de lui, j'ai été vraiment impressionné. Puis si je peux me permettre là, de parler d'un autre jeune, c'est Kobbie Mainoo de l'Angleterre, qui a été extraordinaire.
Mainoo ou Mainoo? Comment on le prononce?
Moi, je dis Mainoo. J'ai entendu que les gars disent Mainoo. Je ne suis pas Baptiste, toi, Mainoo. Tu le prononces.
Ah, ça se peut. Mais oui, tout à fait, vraiment. Autant avec Mainoo dans les derniers matchs qu'avec l'Angleterre.
Là. C'est ça. Il avait fait bonne impression avec Mainoo dans les derniers matchs, mais là, j'ai regardé le match contre la Belgique, puis il a été impressionnant. Là. Il est capable de remporter des duels, les gagner, mais aussi de se porter vers l'avant. Techniquement aussi, très audacieux. Là. Je me rappelle une fois, il récupère un ballon, puis Onana de la Belgique vient le presser, il met un petit pont, puis c'est vraiment très, très beau à voir. C'est un box-to-box. Là. Il va bien s'implémenter dans le système anglais, à côté de Bellingham, Rice. C'est, en tout cas, je trouve que la nouvelle génération de joueurs de foot là, elle progresse très, très bien là, avec Lamine Yamal et tout ça. Là. C'est beau à voir. Pour de vrai.
vraiment. Oui, l'Espagne également, c'est vrai. Donc, écoute, des bons jeunes qui poussent. Puis du côté de Hendrick, est-ce qu'on a un profil semblable à un R9 peut-être qui va revenir? Est-ce que ça serait beau? Ça serait beau de voir, mais il est très, très tôt pour se prononcer. Puis en terminant l'épisode, Baptiste, les trois dernières équipes à s'être qualifiées pour l'Euro, Géorgie, Ukraine, l'autre, j'ai un blanc, là, mais...
Pays de Galles. Non, c'est Pologne.
Pays de Galles. Pologne, oui. Pologne contre le Pays de Galles, merci. En tir au but, un petit mot là-dessus. Personnellement, la Géorgie, je suis très content de les voir là. Kvaratskhelia et l'autre nom que j'ai de la misère à prononcer, là, mais qu'on avait parlé dans le groupe. Mais oui, vas-y, un petit mot là-dessus.
Ben, rapidement, première participation pour la Géorgie. Très content pour eux. Ils ont mérité. Ça va être intéressant, comme tu l'avais dit dans le convo, de voir Kvaratskhelia dans une compétition comme ça. Je pense que ça vient effacer un certain débat qu'on a. On dit souvent, par exemple, la Norvège avec Haaland et Odegaard. C'est pauvres eux qui jouent avec une équipe faible, ils ne peuvent pas se qualifier. On a la preuve qu'une équipe comme la Géorgie, qui est encore plus faible, est capable de se qualifier. Donc, je pense que ça va donner des. Ça va enlever des excuses, on va dire, plutôt à des pays comme la Norvège. Puis l'Ukraine, c'est sûr que pour eux, c'est super de les voir. Là. C'était après des temps difficiles pour eux les dernières années, on va dire, dans le pays plutôt. Ben, ça va être bien pour le pays, ça va donner aux habitants. Le sourire de voir leur nation participer à cette compétition-là. Puis la Pologne, ils vont retrouver la France comme à la dernière Coupe du Monde en phase de groupe. Puis ça va être un. J'ai hâte de voir si Lewandowski va être capable de refaire des exploits pour sortir de la phase de groupe.
Ouais, puis honnêtement, j'ai été un peu déçu de leur qualification. Ça a pris les pénalties, un 0-0 pour se qualifier contre un Pays de Galles qui est nettement affaibli depuis que Gareth Bale n'est plus là, Aaron Ramsey qui était sur le banc, je pense. C'est très petit, les Pays de Galles, on s'entend. Donc, voilà, j'aurais espéré peut-être que... J'ai dit Portugal, je voulais dire Pays de Galles.
Non, je dis juste...
On peut parler. Oui, nous parlerons du Portugal certainement, parce que oui, si, beaucoup de changements dans cet effectif-là. Mais voilà, Pologne de Lewandowski qui sera de l'Euro. Puis tu parlais de la Norvège qui s'excusait souvent d'avoir une équipe faible et de ne pas passer. Mais même, tu regardes là, dans l'Euro, il y en a plein là, des équipes que je pourrais considérer moins bonnes que la Norvège, l'Albanie, la Slovénie. Bref, te parler d'Ukraine et de Géorgie. Donc, en effet, là, Haaland, Odegaard et tout n'ont pas tellement d'excuses que ça. Et tu voulais parler du Portugal, alors je te renvoie la balle.
Ben, Portugal, personnellement, si après vous voulez répondre aussi, si vous avez un favori pour l'Euro, moi, je vois vraiment le Portugal être dans les favoris, même peut-être aller au bout. Probablement la dernière compétition de Ronaldo, après avec lui, avec la forme qu'il a, on ne sait jamais. Même si, après une victoire éclatante contre la Suède, défaite 2-0 contre la Slovénie, puis je vais peut-être m'attirer des foudres puis des réactions, mais pour moi, Ronaldo ne doit plus être titulaire dans cette équipe-là. Il doit plus être un super sub qu'on fait entrer dans les fins de match. On a besoin d'un but ou on a besoin de caractère, mais j'ai vraiment pas aimé son comportement dans le match amical contre la Slovénie. C'est un joueur qui amène trop de distractions. Il y a tellement de caractères que ça en devient trop. Comme on dit, trop, c'est comme pas assez. Mais là, c'est vraiment ça. Il y avait trop de caractères. Il voulait avoir le ballon, toujours recevoir le ballon. Même à des moments où il ne devait pas le recevoir. Tu voyais qu'il était frustré du résultat. Je pense que, comme j'ai dit, il va devoir faire office de joueur de banc puis entrer en cours de match. Je pense que son heure est plus... C'est plus son moment d'être le titulaire indiscutable, on va dire. Après, on va voir si les autres attaquants sont capables de prendre la place. Là, on parle quand même de Ronaldo, ce qui n'est pas facile, mais
je suis mitigé par rapport à ça parce que l'autre option que je verrais... Bon, il y a Diogo Jota qui peut être en pointe, mais pour le moment, même blessé, pourrait rater l'Euro. Donc, c'est vraiment une incertitude de ce côté-là. Ensuite, on a Gonçalo Ramos, à raison de maladie, de blessure, connu une saison très difficile au PSG. Je pense pas que c'est une option que je le mettrais devant Ronaldo là, dans la hiérarchie des avant-centres au Portugal. Roberto Martinez semble quand même bien aimer Ronaldo puis l'historique qu'il a. Donc, je comprends ce que tu dis puis je suis très d'accord que Ronaldo est une distraction qui est beaucoup plus négative pour le Portugal. Mais après ça, est-ce qu'on a un attaquant qui peut faire un meilleur travail que lui? peut-être dans les, mettons, 60 premières minutes, puis après ça, tu fais entrer CR7. À voir, Hans, veux-tu te prononcer là-dessus?
Ben, je suis d'accord avec Baptiste que c'est, cette équipe-là déborde tellement de talent, même trop, que c'est, viser en dessous de la finale, ce serait comme avoir un échec. Mais après, c'est ça. Pour le cas Ronaldo, on en parle depuis même la Coupe du Monde. C'est sûr que c'est plus le même joueur qu'avant. Ce qu'on devrait mettre sur le banc, ce qu'on devrait mettre sur le jeu. Peu importe la décision, c'est, tu sais, Ronaldo va toujours avoir l'ego. Puis qu'il soit sur le terrain, ça va quand même peut-être pas lui faire. Puis sur le banc, encore moins. Parce que je pense qu'il oublie qu'il n'y a pas les mêmes aptitudes qu'avant. Et c'est comme Baptiste a dit, là, il veut le ballon tout le temps. Et je pense pas qu'il est capable de se retourner puis de frapper de 40 mètres comme il aurait pu le faire avant. Et il doit prendre connaissance, tu sais, de son rôle, de ses aptitudes, puis de tu sais, dans la forme physique qu'il a. Tu sais, il est encore en très bonne shape, là, excusez-moi, comme on dit, mais je pense qu'il serait mieux d'être plus dans la surface, attendre les ballons, puis faire courir un petit peu moins de mètres, mais au profit de son équipe pour marquer plus de buts. Puis laisser des ailiers comme Léa ou Joao Félix plus de liberté, même Bernardo Silva, d'aller plus vite, puis lui servir le ballon plus près du but que de lui aller essayer de faire des fantaisies à partir de 30 mètres. Mais c'est bon, ça, c'est qu'est-ce qu'on va voir. Roberto Martinez, tu l'as dit, Oli, semble bien aimer Ronaldo, donc j'ai hâte de voir comment le Portugal va se comporter, là, surtout qu'est-ce qu'ils vont faire de Cristiano Ronaldo. Ça va être ça le plus gros point d'interrogation avant l'Euro.
Mmh. Oui, mais à l'âge qu'il a, je suis bien d'accord. Laisser faire parler ses talents de finisseur dans la boîte, puis laisser les autres créer. T'as tellement de créateurs au Portugal. Puis rapidement, toi, tu parlais du Portugal comme étant un de tes favoris, Baptiste. Moi, je veux une finale France-Angleterre. Je pense que le Portugal va se rendre dans le Corridor également. Là. Je pense que c'est les trois équipes les plus talentueuses et les plus profondes, là, Angleterre, Portugal et France. Je souhaite une finale France-Angleterre. Après ça, pour dire qui gagne, il est trop tôt. Là, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais voilà, je vais dire ça, ce sont mes trois favoris. Je pense que c'est pas mal les mêmes pour tout le monde. Hans, je vais te laisser te prononcer.
Ouais, ben moi j'aimerais voir l'Angleterre remporter l'Euro. Est-ce qu'ils vont la remporter, je sais pas, mais je trouve que eux aussi, tu pourrais leur mettre un 3-11 de départ, puis ils s'en sortiraient quand même. Il y a quand même des gars qui vont revenir de blessure, là. Je pense à Reece James, là, s'il peut être en santé pour l'Euro, j'aimerais le voir à droite, ou Walker, peu importe. Puis non,
Walker leur... aussi est blessé, là. Est-ce qu'il va être de retour, je sais pas.
J'espère qu'il va être de retour parce que l'Angleterre mérite de gagner là, après toutes ces années. Là,
Ils sont dus.
Ouais, puis c'est ça. Au milieu de terrain, ça déborde aussi de talent. Là. Je pense juste déjà à Bellingham et Rice. Je pense que le seul point d'interrogation, ça va être plus en avant. Est-ce que les gars vont être capables d'aller chercher beaucoup de buts? Des fois, tu sais, c'est sûr qu'on a des gars comme Saka, Foden et Kane, mais des fois.
Il y a tellement d'autres options aussi, là. T'as des Watkins, t'as des Bowen, bon, Rashford à la limite peut être une option. Ouais.
Même mais si non, c'est ça. J'aimerais voir l'Angleterre être gagnant de ce tournoi-là. En tout cas, c'est sûr qu'ils vont faire un beau parcours. Là. Je ne les vois pas sortir en poule ou quoi que ce soit. Là. Je pense qu'ils devraient aller jusqu'au bout. Sinon, il y a la France encore, puis le Portugal. Puis j'ai hâte de voir c'est qui l'équipe. Qui va être l'équipe Cendrillon, là, l'équipe surprise là, qui va sortir des belles prestations. Là. Je ne sais pas encore, je ne vais pas me prononcer tout de suite, mais oui, il y a trois formations qui risquent d'aller loin, puis celui qu'on vient de citer.
Oui, mais je suis très d'accord avec toi. L'Angleterre le mérite, puis je dirais aussi que je prends pour eux là, que quasiment, là, à un moment donné, c'est une belle équipe qui ne gagne pas. Je sais que ça fait mal à Baptiste d'entendre ça, mais je suis quand même assez d'accord avec Hans là-dessus. À Baptiste, toi, tu as mentionné le Portugal, est-ce que c'est eux que tu vas gagner?
Moi, je les vois parmi les favoris, là, comme on a dit, comme tu as dit, c'est dur de se prononcer. Certainement, j'aimerais que la France poursuive sur leur séquence de finale, puis qu'ils l'emportent. Mais s'il y a une finale France-Angleterre, il n'y a pas de question. Pour moi, ça va être je vais être derrière les Bleus à 100%.
Non, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Est-ce que c'est ce que tu souhaites, une finale France-Angleterre?
Ben, c'est sûr que c'est si ce n'est la meilleure rivalité européenne.
Ouais, c'est si
bon. Donc, ça serait pas pire. Sinon, un Espagne-Portugal en finale, je pense pas que ça va arriver, mais ça serait une autre belle rivalité.
Je crois que l'Espagne est un peu trop jeune, peut-être, là, pour aspirer aux grands honneurs tout de suite. Ça reste une très belle équipe qui a des vétérans aussi, là, Rodri et autres. Mais à suivre. Puis là-dessus, ben, ce qui est certain, les gars, c'est que ça m'excite tout ça, là, ce soccer international et l'Euro qui arrive, la Copa América. C'est du très beau foot qui arrive. En plus des Olympiques, série Nator au hockey. On va être choyé dans les prochains mois sportifs. Là-dessus, Baptiste, Hans, merci beaucoup pour votre présence à Jean-Zo Malon Rond. Un 20e épisode déjà. Et puis, on salue également Doualé et Tom qui étaient de passage plus tôt à cet épisode. Sur ce, merci encore à tous les auditeurs et on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Jason Ballon Rond.